France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Margot Page et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le dernier volet de notre série sur la laïcité, les différentes formes de laïcité dans le monde, à l'occasion du 120e anniversaire de la loi française sur la séparation de l'Église et de l'État. Nous avons évoqué la Turquie, où la laïcité, la laïclique, a d'abord été pensée comme une façon de contrôler la religion, l'Irlande, où l'Église catholique est priée de céder du terrain affaibli par différents scandales, hier du Brésil, où les évangéliques tentent de peser de tout leur poids sur la politique, aujourd'hui au Vietnam, religion et croyance sous le contrôle du Parti communiste.
Dieu a envoyé un message demandant d'unifier les différentes branches de la religion. Au centre, vous avez Bouddha. À gauche, Lao Tzu, qui représente le taoïsme. Et à droite, Confucius. Et au-dessus, au milieu, Jésus-Christ, représentant la chrétienté.
Les villageois devaient souvent marcher des kilomètres pour assister à la messe. Ils faisaient parfois des détours énormes et se cachaient dans la forêt de peur d'être arrêtés. Donc fonder une communauté chrétienne ici n'a pas été compliqué. La difficulté est venue de l'acquisition du terrain pour construire la chapelle.
En 2020, la situation en matière de liberté religieuse au Vietnam ne s'est pas améliorée. Le gouvernement a appliqué la loi sur les croyances et les religions, dont le texte et la mise en œuvre sont contraires aux droits de l'homme, en violant systématiquement la liberté des groupes religieux indépendants, normalement reconnus par le gouvernement.
Depuis que le communisme existe, il pense savoir pourquoi l'Église le redoute tant. Un militant l'explique à un autre dans La Conspiration de Paul Nizan. Vous autres pensez qu'il y a des boîtes à étiquettes, la boîte socialisme, la boîte fascisme, la boîte communisme, entre lesquelles vous choisissez pour des considérations d'affinité, d'esthétique, d'élégance, de logique. Le communisme est une politique, c'est aussi un style de vie. Et c'est pourquoi l'Église a peur de nous. Elle sait que le communisme joue comme elle, sur la certitude d'une victoire absolument totale. On pourrait en dire autant à l'inverse, le communisme, quand il est au pouvoir, se méfie des religions qui peuvent prendre tant de place dans une vie, même quand elles ne mettent pas à genoux, une foi telle que quand les membres d'un parti attaquent la structure de la société, les croyants les plus fervents les pensent juste un peu souffrants, ils doivent avoir mal au ventre, leur foi, sans eux, à ces croyants, est une montagne, et les communistes ne sont même pas en possession d'une pelle. Au Vietnam, la Constitution garantit la liberté de croyance et de religion, mais celle-ci reste strictement contrôlée par le Parti communiste, lequel considère la vie spirituelle non pas comme une menace absolue, mais comme une force qui peut devenir subversive si elle échappe à son contrôle. Tout comme en Chine, dont nous parlerons en focus, la foi doit rester compatible avec les objectifs du parti, d'où cette attitude ambivalente du pouvoir. Alors comment l'héritage marxiste-léniniste influence au Vietnam le rapport du politique aux religions? Nous en parlons avec vous, Pascal Bourdeau. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans ce studio de Culture Monde. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, responsable de la chaire Modernisme bouddhique, après avoir été maître de conférence sur la chaire Religion de l'Asie du Sud-Est. Vous êtes chercheur au groupe Société, Religion, Laïcité. Vous travaillez sur l'histoire contemporaine du religieux au Vietnam et plus spécifiquement sur le bouddhisme contemporain. Alors Pascal Bourdeau, puisqu'on a inscrit cette semaine de Culture Monde dans le 120e anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, et que le Vietnam à cette date faisait partie de l'Indochine française, est-ce que la loi de 1905 a été exportée au Vietnam, en Indochine française à l'époque ?
Donc, comme vous l'avez dit, le Vietnam était un des trois pays qui formaient l'Indochine française de l'époque coloniale. C'est un pays qui, depuis le XVIIe siècle, en fait, a été l'objet d'actions missionnaires, puisque les jésuites, d'abord les portugais, les espagnols et ensuite les français, sont venus dans ce pays une fois que le Japon s'est fermé à l'époque des Tokugawa, et le Vietnam est devenu une sorte de pivot de l'action évangélisatrice européenne en Asie. La colonisation ensuite a produit donc une réflexion, voire une dialectique entre les représentants de l'administration républicaine et cette présence chrétienne, très puissante aussi, qui tout au long du 19e siècle, au moins la deuxième partie du 19e siècle, lorsque la colonisation se confirme, engage des débats sur la place de l'Église et paradoxalement aussi des autres croyances ou pratiques religieuses du Vietnam dans cette Indochine française. Donc ces débats, bien évidemment, sont suivis. La loi de 1905 qui se prépare aussi devient l'objet de virulents débats de la part des tenants, bien sûr, d'une action missionnaire conservatrice et des républicains, donc d'une partie de la gauche libérale, franc-maçonne notamment, républicains, qui cherchent bien évidemment à imposer, au moins dans le débat, cette question de la place du religieux dans les sociétés modernes.
Donc les débats qui existaient alors en métropole existaient aussi dans les colonies, et finalement la loi de 1905 ne sera pas appliquée. Mais quelle question justement ça a quand même permis de soulever tout ce qui s'est passé autour de cette loi ?
Alors cette loi, donc bien sûr la presse indochinoise a été une presse très dynamique. On a beaucoup de travaux sur les productions en français, puis ensuite qui se développent en langue vietnamienne, sur des débats de société en général. Et on peut peut-être dire que cette loi de 1905 est un élément utile aussi pour les réformistes, voire pour les patriotes vietnamiens, qui vont aussi prendre cet argument pour montrer finalement les contradictions du régime colonial face à cette question de la mission civilisatrice d'un côté et la volonté d'émancipation des populations, notamment par le religieux.
Donc il existe à ce moment-là, vous l'expliquez dans vos travaux, Pascal Bourdeau, des débats à propos du statut légal des organisations religieuses, du statut de ces missions catholiques, de la gestion des lieux de culte, de l'encadrement juridique et institutionnel des pratiques religieuses. Donc ça sème ça sème une petite graine, ce qui se passe en 1905.
Tout à fait. Voilà. Pour comprendre 1905, il faut repartir aussi à 1862, à savoir donc vraiment la conquête des premières provinces de la Cochinchine, donc du sud du Vietnam actuel. Et le traité qui a été signé en 1862, donc traité inégal, qui est dans la poursuite de ce qui a été aussi proclamé aussi en Chine, enfin vis-à-vis de l'Empire chinois, ces traités inégaux qui imposent finalement aussi la liberté religieuse. Donc c'est une notion qui apparaît en 1862, qui jusqu'à présent n'était pas définie de la sorte dans la monarchie vietnamienne, mais qui va reconnaître finalement une hégémonie de la place du christianisme dans cette liberté religieuse. Donc il y a cette première étape qui se crée, et dans la définition même du christianisme va se poser là aussi des débats pour savoir s'il faut considérer le christianisme dans sa vision maximaliste, c'est-à-dire le catholicisme qui intègre l'ensemble du christianisme, ou si au contraire cela laisse la place aussi à d'autres façons d'être chrétien. Et c'est là que le débat avec les protestants va s'engager dès la fin du 19e siècle, mais qui va surtout s'accélérer. Donc on est après la loi de 1905, en 1911, lorsque les premiers missionnaires protestants arrivent et qui, eux, vont promouvoir une autre façon d'être chrétien. Donc 1905, c'est tout de même une période où, en interne de l'Église catholique, on a des débats, mais qu'également, du côté de la société coloniale et du côté des patriotes vietnamiens, on commence à prendre cet argument du religieux et de la liberté religieuse pour un but politique.
Ces missions catholiques ont laissé des traces néanmoins. Encore aujourd'hui, au Vietnam, c'est la deuxième plus grande religion. Elle compte 7 millions de fidèles. Alors, ce n'est jamais que 7% de la population, parce qu'il y a plusieurs bouddhismes au Vietnam, et c'est vraiment la religion dominante, majoritaire. Néanmoins, ces missions catholiques comme sur le continent africains, dont des écrivains et intellectuels qui ont été élevés ou éduqués dans les pensionnaires, racontent aujourd'hui comment a été remis en question alors ce qui, au fil des générations, s'était sédimenté en eux et qui constituait l'ossature de leur être au monde, sa construction essentielle, y compris dans ses croyances, comment tout ça a été remis en cause à cette époque-là. Vous écrivez, Pascal Bourdeau, que les missionnaires chrétiens, ce sont eux qui ont introduit, au XVIIIe siècle, le concept même de religion au Vietnam. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parlait pas de religion avant qu'il n'arrive? Le mot n'existait pas?
Alors, le mot n'existait pas, donc il y a tout un processus de production, en fait, de ce terme, qui est passé par le chinois, qui est passé par le Japon aussi, pour essayer de définir, en fait, cette notion de religion, qui, bien évidemment, dans la langue française ou dans les langues occidentales, font référence au latin, à deux définitions possibles de religere ou de religare, qui n'a absolument rien à voir, bien sûr, lorsqu'on parle de monde spirituel ou de rapport au surnaturel dans les sociétés asiatiques, d'autant plus que ces croyances sont très très peu institutionnalisées. Donc la définition même de l'Église ou de l'organisation d'une Église, d'une communauté qui pourrait avoir des relations normées, disons, avec le pouvoir politique, était beaucoup plus complexe. Et donc l'arrivée, bien sûr, de ces missionnaires vont engager aussi, ça a été le cas en particulier au Vietnam, des débats quasiment théologiques avec les confucéens, avec les lettrés, avec la monarchie, lorsqu'elle a accepté, bien sûr, de rentrer en dialogue avec eux, pour réfléchir, en fait, sur ces notions et essayer de trouver des analogies entre les concepts sino-vietnamiens du rapport au monde, du rapport au ciel, du rapport à la divinité aussi, bien sûr, et un discours théologique ancré dans les traditions chrétiennes. D'où cette volonté, bien sûr, de définir aussi ce terme de religion, qui est passé, donc, comme je l'ai dit, par du travail, bien sûr, sur les termes même chinois, qui sont passés ensuite par le japonais, et qui est arrivé ensuite dans le vietnamien moderne, pour définir conceptuellement ce qu'est donc une religion telle que nous l'entendons ici.
Donc définir une religion, et puis définir aussi ce que doit être la nature des relations entre Église et État. Est-ce que le mot ou quelque chose qui se rapproche de la laïcité ou du sécularisme existait? J'imagine que si le concept de religion n'existait pas, alors ces deux-là encore moins. Et il se trouve que vous avez épluché les dictionnaires pour voir comment les mots évoluent. Quand est-ce que vous voyez apparaître cette notion-là au Vietnam?
Alors, ce travail de sémantique historique est un travail extrêmement intéressant que l'on a produit collectivement aussi pour essayer d'apporter des nouveaux regards sur le débat même de la laïcité, en se disant ce terme, ce concept, en fait, est un concept qui est très ancré dans les traditions occidentales, qui n'a pas forcément, même s'il a une vocation universelle, n'est pas forcément adaptable dans tous les contextes et dans les sociétés asiatiques a fortiori. D'où cette volonté d'avoir regardé collectivement, bien sûr, sur chacun des territoires ou des sociétés sur lesquelles on travaille, de repartir sur les définitions vernaculaires d'une prédéfinition du religieux ou aussi de la laïcité, c'est-à-dire d'essayer de redéfinir le champ ou le nuage en fait de vraiment terminologique qui nous permet de se rapprocher de ces définitions-là. Et bien évidemment, c'est complexe puisque là, il faut excusez-moi de rentrer un petit peu là-dedans,
allez-y,
mais
vous êtes là pour ça.
Il faut non pas avoir une lecture uniquement théologique, mais passer par la cosmologie et par la mythologie pour comprendre finalement le rapport de l'homme à son au-delà et le rapport du ciel et de la terre, donc dans une définition très sino-centrée, mais qui est fondamentale pour comprendre en fait comment ce qui relève de l'ordre de l'humain et ce qui relève de l'ordre du surnaturel se combinent, comment on définit finalement, pour reprendre un petit peu les termes de Durkheim aussi, un sacré et un profane qui expliquerait peut-être plus précisément une sorte de dualité dans ce rapport de l'homme au monde, au mondain et à l'extramondain. Et c'est à partir de là, en fait, en reprenant ces termes, que l'on retrouve aussi dans le chinois, de ces termes qui nous rapprochent en fait du terme de mondanité ou de laïcité, à partir duquel ensuite des intellectuels ont pu produire en fait un terme qui s'est petit à petit imposé, même si le concept même aujourd'hui est encore débattu pour savoir précisément de quoi on parle lorsqu'on parle de laïcité et comment le différencie aussi par rapport à la sécularisation en tant que telle.
Oui, et un terme qui s'inscrit aussi dans un contexte politique au Vietnam, c'est celui du Parti communiste qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. On va inscrire cette discussion dans ce contexte politique-là. D'abord, les années 20-30 dont vous expliquez dans vos travaux qu'au Vietnam, elles ont vu le champ religieux évoluer. D'abord parce que de nombreux jeunes Vietnamiens sont partis étudier en France, au Japon, en Union soviétique, où s'est formée une nouvelle génération de penseurs modernistes, pour certains influencés par l'anticléricalisme, mais pas tous. Est-ce qu'au Vietnam, dans ces années-là, la question religieuse reste un débat d'intellectuels?
Alors, cette question, bien sûr, a été débattue dans un premier temps dans les sphères chrétiennes, catholiques, des missionnaires, mais également des sphères des lettrés, des confucéens, qui se trouvent eux-mêmes face à une perte de leur autorité intellectuelle dans cette modernité qui évolue. Donc on est à la fois dans l'entre-deux-guerres, je pense qu'on passe vraiment à un moment où on est prioritairement sur un débat d'idées, avec dans l'entre-deux-guerres une effectivité de ces débats et des réflexions pour que, en pratique, la place de la religion ou des religions soit redéfinie. Et je pense que la Première Guerre mondiale joue un rôle essentiel en fait dans une sorte de respiritualisation en fait du monde, parce que le drame de la Première Guerre mondiale en fait a provoqué énormément aussi de morts. On l'oublie, mais beaucoup de Vietnamiens sont venus sur le champ de guerre en Europe. Et ce rapport à la mort aussi a très certainement réactivé, plus la distance bien sûr, et ces corps qui ne sont pas revenus au Vietnam, ont réactivé aussi des pratiques croyantes. Et on a vu à cette époque-là, dans les années 20, une étape en fait de la modernité religieuse qui se confirme, avec d'une part cette question de la place du catholicisme dans la nation vietnamienne. On commence à parler de ça. On voit apparaître aussi des nouveaux phénomènes religieux, des formes de syncrétisme, pour aller vite, qui cherchent à redéfinir aussi, dans cette ouverture sur le monde en fait, une origine commune du phénomène religieux, et puis des formes de réactivation aussi, ou de rénovation, notamment ce qui est le cas dans le bouddhisme, pour montrer en quoi le bouddhisme n'est pas une superstition ou une vieillerie asiatique, mais qu'elle a toute sa place pour interagir, bien sûr, dans les débats de société.
Alors, c'est là contre-enjeu le parti communiste, l'alliance Viet Minh fondée en 1941, dominée par les révolutionnaires communistes, qui proclament le 2 septembre 1945 la naissance de la République démocratique du Vietnam. C'est la partition du Vietnam juste après la guerre d'Indochine. Que ce soit au nord du 17e parallèle comme au sud, le Sud qui n'est pas tenu par les communistes, comment se divise en fait le Vietnam sur la question de la sécularisation, sur la question de ce qu'il faut faire des religions? Est-ce que c'est un débat qui existe à ce moment-là, et comment Nord et Sud, au départ plutôt tous unis contre le colonialisme et pour unifier la nation, se séparent sur cette question de comment on doit traiter avec les églises et les religions?
Ben c'est là que le cas du Vietnam est extrêmement intéressant, que c'est véritablement un laboratoire où énormément de choses se passent. C'est quasiment une expérience chimique qui se produit avec des effets différents. On peut parler de dégagement gazeux ou de précipité ou autre, pour expliquer en fait l'expérimentation et l'importance de ne pas plaquer finalement des concepts ou des notions qui ne correspondent pas à la situation locale. Donc 1945, août 45, c'est bien sûr la grande révolution vietnamienne. Et on entre là dans une nouvelle période. Et la complexité et la richesse, bien sûr, du contexte vietnamien, c'est que se croisent des processus de décolonisation, mais également de guerre froide. Et les débats qui touchent, en fait, à la décolonisation et donc à l'émergence d'une idée de nation indépendante va apparaître. Et là, se pose la question, bien sûr, de la religion, des religions exogènes ou indigènes, dans le nouveau substrat national. Et ensuite, bien sûr, la question de cette partition en deux régimes politiques qui vont s'inscrire pour l'un dans le marxisme-léninisme, dans l'autre dans les valeurs démocratiques libérales, et toutes les deux vont finalement développer un discours sur le religieux et se positionner, bien sûr, sur la notion même de laïcité. Du côté marxiste-léniniste, ça va être la reconnaissance, bien évidemment, de croire ou de ne pas croire, sans imposer quoi que ce soit aux citoyens, mais bien évidemment, dans la logique du marxisme-léninisme, il y a l'idée de l'homme nouveau, il y a l'idée du progrès, l'idée que la science dépassera, quoi qu'il en soit, le surnaturel et le religieux. Donc même s'il y a une acceptation du religieux, il y a quand même cette idée d'émanciper l'homme de ses pratiques religieuses. Alors que dans le Sud, on a une reconnaissance, à l'inverse, du pluralisme, enfin de la pluralité religieuse, et finalement du pluralisme qui va permettre de mettre en place en fait un régime de laïcité particulier.
Donc les communistes au nord, au départ, dites-vous, disent que chacun a la liberté de croire ou de ne pas croire, même si à ce moment-là, les représentants de différentes religions sont plutôt très inquiets, voire pour certains constatent sur le terrain qu'ils ne peuvent plus exactement ni exercer leur mission telle qu'ils le faisaient jusqu'à présent, ni leurs fidèles continuent à prier et à s'adonner au culte. C'est ce que raconte par exemple ce missionnaire catholique Paul Seth, qui a été envoyé au Vietnam en 1937, d'abord à Hanoï, ensuite il a été nommé évêque du diocèse de Kon Tum, au nord, donc sous les communistes. Il racontait ça à Jacques Chancel dans Radioscopie en 1978.
Nous étions déjà catalogués avant même l'arrivée des Viet Cong, qui nous connaissaient parfaitement, qui savaient à qui ils avaient affaire. C'est ainsi que, durant cette période, après l'arrivée des troupes sur Kon Tum, j'ai immédiatement demandé audience au commissaire politique qui occupait la place, n'est-ce pas, et qui avait la responsabilité. Quand j'ai vu fermer toutes nos écoles, toutes nos œuvres hospitalières, quand j'ai vu des églises fermées, non pas en ville, mais dans la campagne, n'est-ce pas, et que j'ai vu également la campagne d'athéisme, de matérialisme, en d'autres termes de lavage du cerveau, qui était devenue une chose absolument obligatoire pour la population, je ne pouvais pas accepter cela. Je n'ai pas lutté d'une manière politique contre le Viet Minh, mais il est vrai qu'il y a eu comme une résonance, une conséquence de mon attitude que je voulais avant tout évangélique, en prêchant donc cet évangile. Il y a eu une conséquence, c'est que j'ai été perçu comme étant l'ennemi du système. Je suis certainement l'opposant du système. Alors, si c'est cela faire de la politique, je n'y peux rien. C'est à prendre comme cela, parce que prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas prêcher l'évangile de Marx.
L'évêque Paul Setz dans Radioscopie chez Jacques Chancel en 1978. Pascal Bourdeau, comment expliquer qu'au nord du 17e parallèle, au Vietnam, donc tenu à l'époque par le Viet Minh, au départ les communistes essayent de rassurer les églises et les religions. Il faut s'unir au nom d'une forme de solidarité nationale, et peu à peu, bien que Ho Chi Minh ait décrété en 1955 ou consacré, mais même si le terme est mal choisi, la nature séculière de l'État, la liberté de croire et de ne pas croire, que finalement, progressivement, les représentants des cultes, des religions se sont sentis très contrôlés, voire menacés.
Alors, il est intéressant, bien sûr, d'écouter cette parole catholique de la situation vietnamienne et de la réunification, bien sûr. Interviewer un haut dignitaire de l'Église bouddhique aurait apporté peut-être un regard différent sur ce rapport qui est bien évidemment conflictuel, qui est violent, mais qui n'est pas uniquement ça. Si on regarde un peu plus en profondeur, il y a tout un travail qui reste encore à faire pour comprendre aussi la périodisation de l'évolution de la politique religieuse en République du Vietnam, on s'aperçoit que cette position maximaliste, athéiste, vraiment correspond à une période sur l'ensemble en fait de l'histoire de cette République démocratique du Vietnam, donc de 1945 jusqu'en 1975. C'est un petit peu ce que j'ai voulu faire aussi dans l'article que vous mentionnez, c'était de périodiser et de comprendre en fait comment le régime qui se met en place, qui cherche bien sûr à fonder une république indépendante, et face à énormément de défis. Et les premiers défis, c'est les défis de la sécurité intérieure, bien évidemment. Ce sont les défis de la cohésion nationale. Surtout que, à l'issue de la guerre d'Indochine et de Dien Bien Phu, se provoque cette partition entre deux pays, et donc deux régimes et deux systèmes qui vont lutter l'un contre l'autre. Et bien évidemment que la propagande va jouer un rôle essentiel dans la définition ou dans la méconnaissance de la politique religieuse de l'autre. Et donc je pense qu'il y a quand même une position qui est volontairement agressive sur une forme d'athéisme que le régime a pratiqué à différentes époques. Donc le début peut-être est une recherche d'accommodement. On voit que pendant la guerre d'Indochine, notamment, le Viet Minh cherche à créer des organisations religieuses patriotiques pour que l'ensemble des religions marchent vraiment sur cette voie de l'indépendance. Et ça a été en partie réalisé. Bien évidemment, en 1954, là, on est à une période extrêmement troublée. Et plus près d'un million de Nord-Vietnamiens vont partir dans le Sud à l'appel de la Vierge Marie. Et on part parce qu'en partie, c'était essentiellement des catholiques qui vont donc s'installer dans le Sud et qui vont recréer des communautés des paroisses extrêmement homogènes et qui, bien évidemment, du fait de cet exil intérieur, vont tenir parfois des positions très radicales vis-à-vis du régime. Donc il y a quand même un discours catholique qui est parfois intransigeant aussi par rapport à ça. Mais ça n'empêche que, bien évidemment, à l'issue de la proclamation de la République populaire de Chine en 1949, le Vietnam va suivre aussi le modèle chinois imposé par Mao, et mettre en place des institutions étatiques qui vont commencer à bureaucratiser et à fonctionnariser les cultes.
Les dignitaires religieux, notamment, doivent intégrer l'appareil d'État, porter allégeance au parti communiste vietnamien. En 75, les forces de libération du Nord et du Sud du Vietnam entrent dans Saïgon, le 31 avril, je crois, c'est la fin de la guerre.
Le 30 avril,
proclamation de la République socialiste du Vietnam. J'imagine que la religion n'est pas tout en haut de la pile des priorités pour le nouveau gouvernement du Vietnam réunifié. Il faut pacifier les territoires avant tout, l'administration est purgée. Mais des discussions avec les responsables religieux du Sud, surtout, s'établissent parce qu'ils ne se connaissent pas très bien. Il faut faire connaissance. Quand en 1980, le Vietnam se dote d'une nouvelle constitution qui confirme la liberté de conscience, quoi d'autre, Pascal Bourdeau, ou plutôt en quels termes en parle alors le pouvoir communiste de cette liberté de conscience ?
Alors sur la liberté de conscience, là, il y a un gros débat aussi, un travail qui est mené également pour comprendre aussi par la sémantique historique comment ce concept apparaît et est-ce qu'il est vraiment défini de la même façon que selon les critères internationaux. Donc il y a bien évidemment cette question sur la liberté de conscience. Il reste malgré tout un trouble sur la définition, enfin sur la distinction que l'on peut faire entre liberté religieuse, liberté de pratique, liberté d'expression, liberté de conscience aussi, liberté de culte. Il n'empêche que 1980 suite à la réunification du pays, comme vous le disiez, 1976, c'est la proclamation de la République socialiste du Vietnam. Et là, on réunifie donc l'ensemble de la nation et on redéfinit aussi la nouvelle direction que le pays va prendre. Dans cette constitution, dans ce processus de réunification, la place, bien sûr, des organisations religieuses est essentielle parce qu'elles sont des communautés structurées qu'il faut réintégrer, bien évidemment, dans le giron de la nation. Et que ce n'est pas à ce moment-là des questions d'ordre religieux ou théologique qui se posent, mais essentiellement des questions en fait de reconnaissance et de loyauté vis-à-vis du nouveau pouvoir qui s'est mis en place. Et cette question de la loyauté, si on fait de l'histoire longue, on se rend compte qu'en fait, le Parti communiste ne fait que reprendre le modèle de la monarchie confucéenne qui imposait elle-même cette question de la reconnaissance et de la légitimité du pouvoir, enfin de l'empereur à l'époque, quoi.
Donc ces principes-là, pardon, perdurent jusqu'aux années 90 à peu près, où le pouvoir est confronté au Vietnam à une dégradation continue de l'appareil de production et décide d'adopter un programme de réforme économique, alors disons une forme de libéralisation pour aller vite. En quoi ces réformes redessinent le rapport de l'État aux religions ? Parce que vous écrivez que l'instauration d'une économie de marché à orientation socialiste a eu des effets directs sur la vie religieuse. Pourquoi ? Comment ?
Oui, donc les années 80, c'est la période peut-être la plus terrible du Vietnam, parce que c'est une réunification qui se fait de façon violente pour les gens du Sud, bien évidemment. Économiquement, c'est une dégradation très très forte. C'est la période qu'on appelle des bao-cup, quoi, vraiment des subventions. Et le pays, il faut rappeler aussi le contexte international. Hein, rappeler que le Vietnam est en guerre avec la Chine en 79, qu'il y a les Khmers rouges, et que cette question de la protection de la République est un enjeu majeur, surtout sur ses frontières. Et la place du Sud tient bien évidemment une place centrale, puisque c'est le poumon économique.
C'est là que se trouve Hanoï.
Ho Chi Minh Ville, pardon. Enfin, Saigon, Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, qui est dans le Sud. Hanoï étant au Nord. Donc on est proche. Enfin, il y a ces enjeux aussi internationaux qui interviennent. Donc les années 80 sont une période où, là, vraiment, la politique autoritaire vis-à-vis du religieux est évidente. Pour des raisons de sécurité intérieure, on pourrait dire, quoi. D'une certaine façon, les débats se réouvriront ensuite lorsque la situation sera plus pacifiée. Et c'est ce qui va se faire dans les années 90, où suite à la politique de rénovation, donc le Doi Mui, qui a été instauré en 1986, on rentre sur cette nouvelle voie, bien sûr, que l'on appelle donc du capitalisme à orientation socialiste. Et se poursuit une sorte de politique de rénovation dans le domaine religieux dans les années 90, où pour la première fois, en 1991, l'État reconnaît en fait qu'il n'y aura pas de déperdition du religieux. Et on reconnaît à l'inverse la dimension historique du religieux et la place que la religion peut jouer dans le domaine social.
Voilà, la religion est une nécessité morale pour une large part de la population. C'est ce que dit le Parti communiste en 90, qui lui reconnaît donc cette utilité sociale, en particulier dans les quartiers défavorisés, y compris à Hanoï, la capitale. Sœur Emmanuelle, ici, des Petites Sœurs de Jésus, par exemple, installée dans le quartier de Phuc Than à Hanoï, explique que son rôle, c'est d'accompagner les populations les plus pauvres.
Être proche avec les gens, ça c'est une façon d'évangéliser. Comme le pape François maintenant, il dit sortir de l'église, sortir pour aller vers ces gens rejetés par la société. Parce qu'ils habitent ici, mais pas officiel. Ils sont venus de loin pour trouver un petit appartement comme ça. Ils gagnent le travail très précaire. Parfois, ils gagnent quelque chose, parfois non. On a quand même une vie très enfouie. Caché, on ne fait pas des grandes œuvres. Et je crois qu'il faut donner de l'argent aussi.
Un reportage de Kato TV. Est-ce que c'est ce rapport-là aux religions qui subsiste encore aujourd'hui, Pascal Bourdeau, alors que le Parti communiste est toujours au pouvoir, que certaines églises continuent à jouer ce rôle social, même si elles le font dans une très grande discrétion, comme le dit cette religieuse. Comment aujourd'hui raconter cette relation qu'entretient l'État avec les religions? Il y a eu pas mal de lois qui sont passées, mais non, parce qu'au départ c'était une ordonnance en 2004, puis ensuite une toute première loi sur les croyances et les religions en 2018. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire en 2025 de ce rapport que vous vous êtes efforcé de replacer dans toute une histoire?
Donc oui, la loi, en fait, c'est l'application 2018, mais la loi date de 2016 qui a été appliquée. Donc par rapport à ce dont on parlait, il y a eu bien sûr une volonté dans un premier temps de réintégrer en fait le religieux par le biais des actions sociales, par les valeurs de la pauvreté, de la charité, pour utiliser des termes chrétiens. Si l'on avait interviewé là aussi des abbés de monastères bouddhiques, on aurait eu le même discours sur le bouddhisme engagé et sur le bouddhisme social.
On n'a pas trouvé, je vous avoue que c'est pas évident de trouver des sons au Vietnam.
Voilà, juste pour montrer qu'en fait, que ce débat en fait de l'action sociale de l'ensemble des religions s'est posé à un moment dans les années 90 pour que petit à petit se mette en place en fait des relations officielles aussi entre les représentants de l'État et ces organisations religieuses, qui petit à petit donc on leur a permis de mener des activités dans ce domaine-là. Tout ça a évolué et on rentre de plus en plus dans des actions aussi d'ordre culturel. Et la question qui se pose maintenant, c'est la reconnaissance de ces différentes organisations religieuses au sein même de la nation vietnamienne. Et les catholiques, bien sûr, jouent catholiques et protestants du fait de l'action évangélisatrice provenant de l'Europe et puis ensuite des États-Unis est confrontée peut-être plus que d'autres systèmes religieux, bien sûr, à cette question de la loyauté, de la reconnaissance dans la patrie.
Aujourd'hui, les autorités vietnamiennes reconnaissent 16 religions et 42 organisations religieuses qui leur sont liées, reconnaissent et, ça va de pair en général, exercent un contrôle sûr. Néanmoins, ces chiffres-là ont augmenté. Il y a 20 ans, il n'y avait que 6 religions et pas 16. Comment s'est fait cette reconnaissance progressive de religions qui ne l'étaient pas jusqu'à présent?
C'est précisément la rénovation de la politique religieuse qui, depuis les années 90, a cherché son modèle et a adopté dans un premier temps le modèle chinois, c'est-à-dire une reconnaissance des cultes majoritaires présents au Vietnam. Et ça s'est fait dès les années 80 jusqu'aux années 90. Et la dernière grande religion, entre guillemets, à avoir été reconnue en 1999, est le bouddhisme Hua Hao, donc cette communauté bouddhiste que j'ai étudiée en particulier, qui définissait donc ce spectre du religieux. Puis, suite à l'ordonnance de 2004, le pays est rentré dans une nouvelle politique de reconnaissance et d'enregistrement des cultes, où là, depuis cette période-là, des négociations se sont jouées entre différentes organisations religieuses qui ont permis donc ce processus d'enregistrement et de reconnaissance des cultes et des religions, qui fait que l'on arrive aujourd'hui donc à ce bilan de 16 religions et de 42 organisations religieuses. Mais sur ces 16 religions, bon, il y a des choses, on pourrait en discuter, bien évidemment, c'est très intéressant à observer. Il y a des groupes qui sont des communautés essentiellement bouddhistes du Sud-Vietnam, qui représentent des toutes petites communautés, mais qui, du point de vue juridique, sont reconnues reconnues comme des organisations, enfin comme des religions en tant que telles. Quoi.
Les organisations religieuses et les croyants disent pourtant combien il leur est difficile d'agir librement. Le journal La Croix en parle de temps en temps. Les ONG s'inquiètent de cette liberté religieuse à géométrie variable et qui dépend beaucoup apparemment des autorités locales. Anurima Bhargava est la présidente de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.
Dans notre rapport annuel de 2021, nous avons de nouveau recommandé au département d'État américain que le Vietnam soit reconnu comme un pays particulièrement préoccupant en raison de ces violations systématiques, continues et flagrantes de la liberté religieuse. En 2020, les autorités ont continué de persécuter activement les communautés religieuses indépendantes, notamment les protestants Hmong, les montagnards, les représentants de l'Église bouddhique unifiée, les adeptes du caodaïsme, les catholiques et les pratiquants du Falun Gong. Les communautés ethniques minoritaires sont confrontées à des persécutions particulièrement graves pour la pratique pacifique de leurs croyances. Notamment des agressions physiques, des bannissements, des détentions, des emprisonnements, des tortures et des mauvais traitements, et des renonciations forcées à leur foi.
Alors, est-ce que la liberté religieuse au Vietnam est à géométrie variable, Pascal Bourdeau ?
Oui, selon le point de vue que l'on prend, et selon le niveau ou l'échelon administratif sur lequel on analyse ce qui se passe, quoi. Bien évidemment, on a un discours qui est unitaire, qui est le discours de l'État, à travers ses normes juridiques. La question, c'est l'application sur le terrain qui pose question. Et lorsqu'on regarde, en fait, selon les territoires qui constituent le Vietnam, la composition ethno-religieuse, les autorités locales se retrouvent confrontées, en fait, à des problématiques qui, parfois, les dépassent. D'où aussi cette question de la mise en application des principes du respect de la loi et de tensions et de violences aussi qui peuvent paraître localement. Cette interview prend la position, bien évidemment, des organisations internationales telles que USCRIF aux États-Unis, mais également Amnesty ou autres, puis d'autres ONG confessionnelles qui font de la veille aussi, qui sont extrêmement précieuses pour justement pointer les problèmes qui peuvent se jouer au niveau local. Et on comprend bien sûr l'importance de faire remonter ces questions-là. Les années 2005-2007 ont été des moments très importants au Vietnam, où précisément le Vietnam a été placé sur la liste des pays, sur la liste noire en fait de cette organisation, USCRIF, qui imposait, si la situation n'évoluait pas, des sanctions économiques dans les relations bilatérales vietnamo-américaines. Donc on a vu là, bien évidemment, des questions qui devaient être réglées à cette époque-là. Il est intéressant de voir aussi que dans ce qu'elle dit, elle mentionne différentes organisations religieuses, dont Falun Gong, qui n'est pas, que l'on ne peut pas traiter de la même façon, tout simplement parce que c'est un culte qui n'est pas reconnu.
On parle de Falun Gong, d'ailleurs, c'est surtout en Chine que cette question s'est posée. On en parlera avec Vincent Gossard en focus dans pas longtemps.
Mais qui se pose aussi au Vietnam. D'accord. Mais ça permet de montrer aussi peut-être les ambiguïtés aussi entre définir en fait ce qui se passe dans le cadre de la loi et ce qui est bien évidemment non reconnu par le gouvernement. Bien sûr qu'il y a des tensions qui se jouent, mais il faut là aussi bien les contextualiser et voir dans quelle mesure le religieux est vraiment fondamental dans les tensions locales qui se jouent, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui l'expliquent. Début des années 2000, il y a eu pas mal de tensions aussi sur les zones montagnardes et les hauts plateaux qui étaient d'une certaine façon, la question religieuse était un élément, voire un élément instrumentalisé dans des questions qui étaient beaucoup plus larges.
Ces ONG aussi sont inquiétées de ce qu'il est écrit aujourd'hui dans les textes au Vietnam. Nous allons faire attention aux organisations religieuses et nous faciliterons la pratique de leur religion. En même temps, nous allons prendre des initiatives en matière de prévention des religions trompeuses qui provoquent la séparation et endommagent le grand bloc de l'Union nationale. Donc ce texte est régulièrement cité comme étant très ambigu et permettant sans doute certaines dérives. Peut-être pour conclure, Pascal Bourdeau, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, vous parlez d'une laïcité identitaire au Vietnam, et comme on a essayé de creuser les différentes formes de laïcité qui existent dans le monde, je trouve très intéressant que vous concluiez en nous disant ce que vous entendez par laïcité identitaire, qui serait quoi, au service, une laïcité au service du parti communiste vietnamien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors ce terme de laïcité identitaire, en fait, je le reprends, ou nous le reprenons collectivement, en fait, des idéotypes de Jean Bobéro, qui a produit énormément de travaux sur cette question de la laïcité. Et dans un travail collectif, ce que nous avons voulu faire, en fait, c'est de reprendre la trame, la matrice proposée par Jean Bovéro dans ses analyses qu'il a pu produire essentiellement en France et dans les pays voisins, sur les terrains asiatiques, pour voir si ça fonctionne. Et donc, dans sa typologie, en fait, il définit, il adjective la laïcité sous diverses formes, autoritaire, identitaire, etc. Et dans le chapitre que j'ai écrit, donc, j'en arrive à la conclusion ou une hypothèse explicative de la situation actuelle qui serait finalement on se rapprocherait de cette notion de la laïcité identitaire qui correspond au contexte actuel. Mais dans l'article, j'essaie de montrer qu'à différentes époques, dans les années 50-60, on a d'autres formes de laïcité aussi qui peuvent être exprimées.
Et laïcité identitaire, c'est aussi promouvoir par exemple le bouddhisme vietnamien comme un instrument de diplomatie religieuse. Ça fait partie de toutes ces surprises qu'on a quand on découvre votre travail sur la religion au Vietnam et ce rapport à la religion. Vous mentionnez l'ouvrage que vous avez co-dirigé, La question laïque vue d'Asie, qui paraîtra en français fin décembre. Eh bien, il est question aussi de la Chine. On en parlera en focus juste après ce rappeur vietnamien qui chante ici 2 millions d'années et qui évoque sa spiritualité à lui.
Chung quanh anh toàn là nước ấy, cơ thể anh đang bị ướt ấy, mênh mông toàn là nước ấy, êm ái như chưa từng trước đây. Trăm ngàn con sóng xô, anh lao vào trong biển cả vì em làm anh nóng khô. Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ. Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ. Anh cũng cần em nhưng không biết em sao. Anh không kén lắm và anh quyết đem trao. Cho em hết nắng, cho em hết đêm sao. Nhìn mặt anh đi, em nghĩ anh tiếc em sao. Trăm ngàn con sóng từ mọi nơi mà đổ về, và đây là cách mà anh đi tìm kiếm sự vỗ về. Em có quá nhiều bí mật, anh thì không cần gặng hỏi. Em sâu như là đại dương, anh thì không hề lặn giỏi.
Anh thì không hề lặn giỏi, baby.
Anh soi mình vào gương cho bỏ công lao, thấy mặt thấy người sao thấy rõ trong nhau. Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu. Ta rồi sẽ là ai, một câu hỏi nhỏ trong đầu. Ta chỉ là hòn đất hay chỉ là cỏ bông lau. Như là mây gà em mới bỏ không lâu. Hay chỉ là đầu thuốc kia cháy đỏ không lâu. Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa. Yêu từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Muốn níu em trong tay khá bạn cũng khá đuối. Em giống hệt như biển cả, em có nhiều bí mật. Anh làm rất nhiều thứ để đồng tiền trong ví chật. Người ta không quý con ong mà người ta chỉ quý mật. Em hỏi nhạc sao hay, anh gọi nó là bí thuật.
Le rappeur vietnamien Den et sa chanson qui veut dire 2 millions d'années, où il évoque sa spiritualité et questionne rien de moins que sa place dans l'univers. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les différentes voies de la laïcité dans le monde, aujourd'hui au Vietnam, où la religion et les croyances restent contrôlées par le Parti communiste. En Chine aussi, la liberté religieuse inscrite dans la Constitution reste sous contrôle strict du PCC. Les religions y sont toutes égales, mais certaines plus que d'autres.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Depuis la sinisation des croyances rendue officielle par Xi Jinping en 2015, les politiques se durcissent, le personnel religieux ne peut agir qu'en adhérant à des institutions officielles, les religieux n'ont plus le droit en tant que tels de s'exprimer sur les réseaux sociaux, et hors des 5 religions officielles, les mouvements messianiques considérés comme sectaires sont quant à eux totalement interdits. Le pasteur Sim Mingri, fondateur de l'église de Sion, a été arrêté en octobre.
Mon père a fondé l'église de Sion en 2007 et elle est devenue l'une des plus grandes églises de Pékin jusqu'à sa fermeture en 2018. À cette époque, nous accueillions jusqu'à 1500 membres chaque semaine. Quand elle a fermé, le Seigneur nous a aidés à travers cette persécution et il a aidé notre église à grandir au lieu de décliner pour devenir aujourd'hui une église qui touche jusqu'à 10 000 personnes par jour au niveau national.
Bonjour Vincent Gossard.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, historien des religions chinoises et en particulier du taoïsme, qui est l'une des cinq religions officiellement reconnues en Chine, avec le bouddhisme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Comment d'abord Xi Jinping a-t-il entrepris de siniser les religions, comme le stipule la loi de 2015 qui déclare que les croyances doivent être adaptées aux valeurs socialistes? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il s'y prend?
Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'évoquer la situation en Chine aujourd'hui et de la mettre un petit peu en perspective historique. Quand on publiait en 2012, l'année où Xi Jinping est devenu secrétaire général, arrivé au pouvoir, j'avais publié avec mon collègue anthropologue David Palmer un livre, La question religieuse en Chine, presse du CNRS, et on s'interrogeait à l'époque sur l'avenir de la situation des religions en Chine, avec plusieurs scénarios dont certains étaient relativement optimistes sur la possibilité de une expansion continue, relative, néanmoins, d'un espace de liberté pour diverses formes de pratiques religieuses, qui était là ce que l'on voyait au début des années 2000, donc jusque 2012. C'est pas ça qui s'est passé, effectivement. Le régime de Xi Jinping a mis en place un ensemble de mesures de contrôle, pas seulement sur les religions, mais il est très clair que les questions religieuses sont remontées dans la hiérarchie des priorités et des questions qui préoccupent le pouvoir de Pékin. Là où auparavant, même si les textes, la constitution, les lois, etc., qui ne sont pas forcément les indications les plus sûres des pratiques concrètement mises en place.
Oui, parce qu'après, il y a les directives du parti.
Voilà, les directives du parti sont en certaine façon priorité sur la loi. Il restait évidemment le cadre législatif restait assez, enfin très contraignant, mais il y avait une assez grande tolérance dans les faits, une décentralisation de la gestion des religions, des régions, des provinces, où on pouvait même parler d'une sorte de laboratoire, d'une plus grande liberté accordée aux organisations religieuses locales, notamment aux cultes locaux, qui sont le fondement en fait de la pratique religieuse en Chine. C'est la forme la plus quantitativement majoritaire. Donc la reprise en main, la recentralisation, l'examen beaucoup plus serré de ce qui est autorisé ou non, le fait que les membres du parti qui sont théoriquement interdits de toute forme d'activité et de pratique religieuse, ont vu cette obligation qui était précédemment peu appliquée ou de façon très très lâche ou tolérante, se sont vus l'objet d'un contrôle beaucoup plus serré sur leur participation effective à différents types de pratiques, de rituels, etc., d'organisations religieuses. Donc tout cela s'inscrit dans une exigence de loyauté au parti renforcée. Ça touche la religion, mais pas uniquement la religion. Les ONG suivent une trajectoire tout à fait semblable, d'autres types d'organisations. Donc la loyauté au parti, donc la sinisation, c'est en fait c'est une façon d'exprimer la loyauté absolue et inconditionnelle au parti, ce qui touche évidemment particulièrement les religions qui ont un ancrage international, l'Église catholique évidemment, les organisations protestantes tout autant, l'islam de façon très différente, mais qui est aussi concerné par les financements internationaux pour la construction de mosquées, etc.
Donc le Parti communiste chinois considère aussi ces religions comme des ingérences étrangères, que ce soit quand le Vatican intervient, mais aussi l'islam, les mosquées, si elles sont financées entre autres par l'Arabie Saoudite, le PCC s'en méfie aussi pour ça.
Bien entendu, oui.
Donc, la sinisation, c'est le contrôle des prêches, par exemple, par le Parti communiste, jusqu'au point de doctrine pour certaines religions, les rituels. Il faut être enregistré comme lieu de pratique religieuse. Et puis, en septembre dernier, l'Administration nationale des affaires religieuses a publié une nouvelle législation qui encadre cette fois les pratiques religieuses sur Internet. Les ministres des cultes ne peuvent plus être influenceurs, prêcher sur les réseaux sociaux ou lancer des cagnottes pour financer la construction de lieux de culte de leur côté. Est-ce que ces contrôles, c'est exerce y compris donc sur l'Église catholique, malgré l'accord de 2018 entre la Chine et le Vatican, où Pékin a accepté de lâcher du lait sur le contrôle qu'elle exerçait jusqu'à présent sur la nomination des évêques.
Alors, l'histoire des relations entre le gouvernement chinois et le Vatican, c'est un domaine d'étude à part entière, très, très, très complexe, et sans doute il faut être un petit peu initié pour comprendre la réalité de ce qui se passe derrière les annonces et les décisions qui sont faites. Il est clair qu'il y a, entre l'église officielle patriotique et l'église souterraine, des relations qui sont très variables suivant les lieux, qui peuvent être en fait de réelles coopérations dans certains endroits, mais aussi de tensions, d'hostilité dans d'autres. Donc il faut aussi voir la situation à partir du terrain et de la grande variété des situations. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur l'ingérence de l'État, je pense que ça peut nous faire réaliser que si on peut parler de laïcité au sens large, en Chine, comme on l'a vu tout à l'heure aussi dans le cas du Vietnam, c'est assez différent du modèle français, la laïcité, où l'État doit être neutre et n'intervient pas dans les points de doctrine, les points de rituel. Ça n'est pas du tout le cas en Chine. L'État intervient très directement. On a des listes très précises et constamment mises à jour, des rituels qu'on a le droit de faire, des rituels qu'on n'a pas le droit de faire, des points de doctrine, ce qui peut être publié ou non. Donc en fait, il y a un contrôle très très serré du contenu dogmatique, rituel, pratique de la vie religieuse.
Comme tout à l'heure, Pascal Bourdeau a évoqué très rapidement le Falun Gong qui existe au Vietnam, mais dans d'autres proportions et d'autres modalités qu'en Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des mouvements messianiques de type Église de Sion, d'ailleurs, dont le fondateur a été arrêté, on entendait sa fille tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui? Il y a une longue tradition en Chine de ces mouvements. Qu'est-ce qu'en fait aujourd'hui le Parti communiste?
Alors, certains collègues, sociologues notamment, ont voulu décrire, et c'est assez efficace, je pense, pour comprendre ce qui se passe, l'immense éventail des pratiques des organisations religieuses dans le monde chinois, entre une zone rouge qui est donc strictement interdite et très activement réprimée, une zone grise de ce qui est théoriquement interdit mais toléré jusqu'au moment où ça ne l'est plus, et donc tout le monde joue en permanence avec les frontières, et puis les formes officielles de, donc notamment les cinq organisations religieuses patriotiques. Et différents groupes religieux peuvent passer d'une catégorie à l'autre, d'une zone à l'autre, suivant les événements. Donc on a eu bien sûr la répression bien connue du Falun Gong à partir de 1999, qui a été extrêmement féroce et assez efficace.
Alors qu'il avait été très encouragé avant par le Parti communiste, mais jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y avait plus d'adeptes du Falun Gong que de membres du PCC. Ça a posé problème.
Un revirement très rapide et brutal, effectivement, en 99. Donc, à un moment donné, le Falun Gong était en tête de la liste des organisations à réprimer. Évidemment, le Falun Gong existe toujours, bien entendu, y compris dans la diaspora chinoise, et il ne faut pas oublier l'importance des relations internationales. On a une population d'origine chinoise, sinophone, très importante en France, notamment en région parisienne, mais pas uniquement, et beaucoup d'organisations religieuses. Le Falun Gong est présent, les églises protestantes sont présentes, et d'autres mouvements messianiques que vous évoquez sont présents aussi. Et avec les réseaux sociaux, la téléphonie et autres, beaucoup de Chinois vivent à la fois en Chine et en France, ou aux États-Unis, ou en Asie du Sud-Est, ou ailleurs. Évidemment, le contrôle de l'Internet et le discours religieux en ligne est aussi lié au fait que ces organisations religieuses circulent. Les gens circulent, les idées circulent, les textes circulent, les financements circulent. Donc on peut aussi voir toutes ces questions à partir de Paris. Donc le Falun Gong était présent, il est beaucoup moins important aujourd'hui, il existe toujours, mais il est peut-être moins prioritaire. D'autres églises d'origine protestante, mais vraiment aux marges du monde chrétien. Vous avez évoqué l'église de Sion. Il y a aussi l'église du Seigneur Tout-Puissant, Tianangshan, qui s'appelle aussi Éclair de l'Orient, qui est aussi un groupe très controversé et qui, à la suite de différents événements récents, est monté tout en haut de la liste des mouvements à réprimer. Le Iguandao, qui a cinq temples différents à Paris, très très présent à Taïwan, qui est installé discrètement en Chine, mais qui reste aussi très activement surveillé et occasionnellement réprimé.
Et peut-être juste pour conclure, Vincent Gossard, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, rappeler aussi qu'en Chine, il y a quand même aussi beaucoup d'athées, même si à un moment, le pouvoir parlait de 100 millions de croyants sur 1,415 milliard d'habitants pour dire que c'est une minorité. En effet, oui, en vrai, c'était assez réel. Il y a beaucoup d'athées aussi en Chine. Et vous l'expliquez dans vos travaux. Je vous remercie beaucoup, Vincent Gossard, d'avoir été avec nous, directeur d'études à l'École
l'École pratique des hautes études, historien des religions chinoises, l'EPCC, qui a inspiré beaucoup le Parti communiste au Vietnam, mais dont le Parti communiste au Vietnam essaye aussi un petit peu de prendre son indépendance. Il cherche à trouver sa propre voie. C'est ce que vous expliquez, Pascal Bourdeau, dans l'ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, La question laïque vue d'Asie, qui paraîtra en français aux éditions De Gruyter le 29 décembre prochain. Merci d'avoir été avec nous pour parler du Vietnam. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, responsable de la chaire modernisme bouddhique. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Une bataille économique et culturelle, Catherine, à la une ce matin entre Paramount et Netflix pour racheter Warner Bros Discovery, ses studios, mais aussi la chaîne CNN. Et les États du Golfe comptent bien faire pencher la balance.
L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, d'habitude concurrents régionaux, unissent pour une fois leurs forces, soulignent les quotidiens Gulf News et Khalij Times, publiés à Dubaï, pour soutenir le groupe de télévision et de cinéma Paramount Skydance, qui veut racheter son concurrent Warner Bros Discovery, valorisé à plus de 108 milliards de dollars, une surenchère par rapport à l'offre de Netflix, note le Wall Street Journal. Et cette alliance, rare entre les pays du Golfe, souligne leur empressement à s'imposer dans l'industrie du divertissement, leur envie d'accroître leur soft power, leur influence, au-delà des pétrodollars, analyse l'agence Reuters et le Financial Times, en acquérant ainsi une part du fleuron d'Hollywood pour entrer aussi dans le cercle très fermé des grands acteurs médiatiques. Alors, les États du Golfe ont déjà investi des centaines de milliards de dollars dans le sport, le tourisme, mais ce n'est qu'en 2018, par exemple, que l'Arabie Saoudite a autorisé la réouverture de cinéma après 35 ans de fermeture, rappelle Reuters. Des parcs d'attractions soutenus par Hollywood ont depuis fait leur apparition dans la région et les pétrodollars du Golfe sont désormais essentiels pour le patron de Paramount, David Ellison. Le fils du milliardaire Larry Ellison, proche de Donald Trump, relève le Financial Times.
The actual check he's writing is 12 billion and three Middle East entities.
Le chèque que signe David Ellison s'élève à 12 milliards et trois entités du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi et le Qatar, apportent un soutien financier de 24 milliards de dollars. Si bien que ces États du Golfe deviennent le principal apport de fonds propres à cette offre de rachat de Warner par Paramount, explique un analyste médias et technologie sur Bloomberg Technology. Il se demande si à mesure que l'on comprendra mieux les détails de l'offre de Paramount, la polémique va enfler, comme on a pu le voir sur d'autres points avec l'offre de Netflix. Cet analyste pense également que de nombreux pays étrangers vont être frustrés par ces deux offres. Il estime qu'il faudra un an, voire un an et demi, pour étudier l'offre de rachat de Warner par ces deux entreprises. De son côté, Business Insider se demande si l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis se contenteront de simples retours financiers ou s'ils attendent autre chose de leur investissement. Crainte d'ingérence médiatique ou politique, les investissements des monarchies autocratiques du Golfe suscitent la polémique, rappelle le Financial Times, après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, tué par des agents saoudiens. Épisode balayé d'un revers de la main par Donald Trump le mois dernier, qui a déroulé le tapis rouge au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, tout sourire à Washington, comme le montre le quotidien Saudi Gazette. Un dîner de gala s'est tenu en présence notamment des patrons de la tech, Elon Musk, du PDG d'Apple, Tim Cook, ajoute le journal saoudien Arab News. Alors, pour apaiser les inquiétudes concernant l'influence que les bailleurs de fonds du Golfe pourraient exercer sur les actifs de Warner, Paramount a promis que ni les investisseurs du Golfe, ni Affinity Partners, la société de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, ne disposeraient de siège au conseil d'administration. Mais Fortune craint de possibles conflits d'intérêts, alors que Donald Trump a répété hier sa volonté de voir CNN changer de main avec la vente de sa maison mère, Warner. Pour l'actrice et militante Jane Fonda, c'est toute l'industrie d'Hollywood et la démocratie qui sont aujourd'hui menacées, rapporte Democracy Now.
On parlait de la Chine tout à l'heure dans Culture Monde. Il se trouve qu'elle possède aussi un atout de taille dans la compétition mondiale en matière d'intelligence artificielle.
Les États-Unis ont inventé des modèles d'intelligence artificielle les plus puissants. Ils contrôlent l'accès aux puces informatiques les plus avancées. Mais la Chine possède, elle, le plus vaste réseau électrique au monde. C'est ce que souligne le Wall Street Journal. L'an dernier, la Chine a produit deux fois plus d'électricité que les États-Unis. Et cette course à la suprématie énergétique transforme les vastes étendues reculées de la Mongolie intérieure, composée de grands espaces, en un parc de milliers et de milliers d'éoliennes parcourues aujourd'hui de lignes électriques à environ 300 km au nord-ouest de Pékin. Le programme gouvernemental Données à l'Est, Informatique à l'Ouest, vise également à attirer des investissements dans les régions les plus pauvres de l'intérieur de la Chine. Les autorités ont demandé aux entreprises de construire de nouveaux centres de données dans ces pôles d'excellence. Alors les températures fraîches de Mongolie intérieure sont idéales pour les centres de données, explique le Wall Street Journal. Cela permet de réduire le besoin en climatisation et en eau pour refroidir ces centres de données. Et ce n'est que le début, prévient le Wall Street Journal. La Chine devrait investir 560 milliards de dollars dans des projets de réseaux électriques d'ici 2030. Et selon Goldman Sachs, Pékin disposera alors d'une capacité excédentaire de 400 gigawatts, soit trois fois la demande mondiale en énergie estimée pour les centres de données en 2030.
Merci beaucoup Catherine Dutu.